Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur une des activités préférées des Français l'été, le barbecue. Mais vous allez voir qu'il a bien changé entre cuisson à la verticale, charbon éco-responsable et cuiseur solaire. Il regroupe Treka, Simon ou encore Don Lopilo, prend soin de notre sommeil depuis les années 20 et 30 pour ses toutes premières marques, Adova et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, un verre dont la base clignote pour inciter les personnes âgées à boire quand il fait chaud, c'est le cas en ce moment, eh bien c'est la solution aujourd'hui pour ne pas se déshydrater. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous êtes peut-être vous-même un adepte du barbecue. C'est vrai que cette saison, eh bien, venez nous le dire, Anissa.
Ben vous êtes peut-être là à 13h01 en train de faire griller quelques merguez. Venez nous dire comment vous utilisez la cuisson extérieure. Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous faites attention aux produits français? N'hésitez pas à venir nous le dire dès maintenant au 39-21. C'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Puis vous pouvez également réagir et poser toutes vos questions aux invités de Raphaël sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Eh oui, cette saison, effectivement. Et vous êtes nombreux. Dès que les beaux jours arrivent, à vouloir déjeuner ou dîner dehors. Et preuve s'il en fallait que le barbecue à la côte, il existe même désormais depuis 2013, un championnat de France de barbecue. La finale, notez-le, elle a lieu ce week-end du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. Pour accueillir nos invités aujourd'hui, Paul Lassen est à mes côtés. Bonjour Paul.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est François Sigel, fondateur entre autres de la revue Oui Demain. Bonjour François.
Bonjour Raphaël.
Alors, faire griller poisson, viande, légumes, c'est vrai que c'est tout un art, hein, mais vous allez voir que les techniques habituelles ont elles aussi changé. Fini l'horizontale, voilà notamment la cuisson verticale. Bonjour Régis Fulzin.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la maison Le Marquier. Depuis 1971, cette maison fabrique des barbecues, mais aussi des plans de chasse. C'est même le fondateur de l'entreprise, je crois, hein, Guy Court, qui a inventé le concept, si je ne me trompe pas, parce qu'il est landais et il ne pouvait pas cuire son magret sur le barbecue à cause de la graisse.
Voilà, exactement. Maison Le Marquier a été fondée en 71 et à l'origine c'était de la ferronnerie d'art, on faisait des accessoires de cheminée. Et en fait dans les Landes, dans le Pays Basque, la mode c'est effectivement le magret, des produits avec beaucoup de graisse qui étaient impossibles à cuire sur leur barbecue.
D'où l'invention de la plancha.
Voilà, et la plancha ça permet de cuire tout type d'aliments.
Dites-moi, la Maison Le Marquier, elle sait voir venir les tendances, hein, parce qu'en 1986 il va développer une autre invention, le barbecue à la verticale. Comment est-ce que lui vient cette idée? Quel est l'intérêt finalement pour la cuisson?
L'intérêt pour la cuisson, c'est que les graisses ne vont pas tomber sur les braises, donc il n'y aura pas de flambées, de flammes qui vont carboniser les aliments. Et avec ce système, on peut cuire des aliments très gras ou des grosses pièces type des poulets, des canards à la broche.
La Maison Le Marquier est origine France garantie, ce qui signifie que quasiment la totalité de vos produits sont fabriqués à 90 voire 95% ici, chez nous, en France, même carrément à côté de Bayonne.
Voilà, tout à fait. L'usine est située à Saint-Martin-de-Seignanx, c'est à 5 km au nord de Bayonne. On emploie à peu près une cinquantaine de personnes, on est en plein développement. Et on est fiers de produire Made in France, on est labellisé Origine France Garantie. Et on a au minimum 90 à 100% en fonction des produits en France.
Vous arrivez dans l'aventure beaucoup plus tard, 2017.
Oui, exactement.
Vous étiez déjà dans le monde du barbecue, vous avez travaillé pour de grandes marques, vous rachetez l'entreprise au fondateur, et alors vous faites entrer le groupe Ariès, qui est un groupe français dans le capital, qui est un groupe familial, un familial de Grenoble.
Oui, tout à fait.
Pour quelle raison? Vous aviez envie de relancer cette maison, d'en faire autre chose?
Alors, le barbecue, c'est ma spécialité depuis à peu près les années 2000, hein, où j'ai lancé vraiment une grande marque en France et en Europe. Et passé 50 ans, on a un peu des envie de mettre en rapport son travail avec des valeurs qu'on partage, sociales, le produire en France, et puis éco-responsable. L'opportunité s'est présentée et bah, j'ai franchi le pas, je me suis lancé, j'ai racheté Maison Le Marquier à Guy Court, son fondateur.
Et aujourd'hui, ça va mieux pour votre maison? La barre est en train de se redresser. Vous avez, je crois, revu totalement ou en grande partie la gamme. Vous dessinez des planchas, vous axez vraiment tout sur le Made in France.
Voilà, c'est vraiment le leitmotiv pour nous. En deux ans, nous sommes passés de 7 millions d'euros à 10 millions d'euros en développement, c'est très très fort. Nous avons changé pratiquement 80% de la gamme. Alors à la fois en termes de look, mais à la fois en qualité, nous avons vraiment monté la qualité des produits et nous avons des nouveaux succès qui vont arriver très 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 sympa.
Et puis vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'important, gros travail sur les plaques, sur les brûleurs pour les garantir à vie. Ça, c'est aussi un devoir, un gage de qualité, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. À partir du moment où tous nos planchas sont montés par un monteur qui va signer sa plancha, on a voulu aller plus loin dans notre engagement social et éco-responsable. Toutes nos brûleurs, nos plaques vont être garanties à vie. Et à côté de ça, on va mettre un forfait pour 90 euros. Même dans 15 ans, dans 20 ans, on vous remet en état votre plancha. On s'engage vraiment très très fort. Et avec ça, on combat l'obsolescence programmée et on veut s'engager très très loin.
François Segel, notre coach aujourd'hui, que dit-il ?
Il dit que le barbecue, c'est vrai que c'est une institution, qu'en fait c'est un produit totalement social, quoi. Globalement, quelles que soient les classes, je dirais, de la société, on peut tout à fait se réunir devant un barbecue. Mais j'en reviens à votre entreprise, tout à fait méritante, puisque en face de vous, je crois que vous avez quand même du lourd. Si j'en crois les annonces qu'on peut voir ou entendre à la radio ou à la télévision, il y a quand même une marque qui s'appelle Weber, hein, et qui est américaine.
C'est américain.
Et que vous connaissez bien, puisque vous l'avez installé en
Europe,
France.
Ouais. Eh oui. Et en Europe, oui.
Ah oui, d'accord. Et comment vous faites alors pour résister, effectivement, pour résister, se développer face à un géant pareil ?
Déjà, il faut être innovant. C'est un peu le sujet du jour. Il faut être intransigeant sur la qualité. Par exemple, ce soir, on va me remettre le Grand Prix de l'innovation du monde du jardin, du barbecue. Donc, c'est quand même une vraie fierté pour nous. Et en termes de qualité, on a des taux de satisfaction de nos consommateurs très très élevés. Et à l'époque où je dirigeais Weber, le marque était la seule marque qui était au-dessus de Weber en termes de satisfaction de ses clients. Donc on a une orientation innovation qualité très très forte.
C'est quelque chose d'important vraiment l'innovation aujourd'hui, ouais. dans votre maison le Marquet. Vous disiez tout à l'heure vous êtes 50 à travailler, mais vous souhaitez embaucher justement pour prendre ce tournant-là encore plus.
Oui, quand j'ai repris l'entreprise, l'entreprise était en difficulté effectivement. Le but était de développer le chiffre d'affaires pour garder tous les salariés. On les a gardés tous et on les développe. On est passé de 43 salariés à une cinquantaine et l'objectif c'est vraiment de se développer dans les années futures.
François, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, parce que dans ce monde où on remet tout en question, je dirais aujourd'hui, avec une certaine violence globalement, le barbecue, il n'échappe pas aux critiques non plus. La viande, la charcuterie, le charbon de bois, le grill, la déforestation, etc. En fait, vous réunissez à peu près tous les critères possibles.
Ah.
Et globalement, il faut y répondre.
Alors François, vous avez complètement raison. Et c'est pour ça que nous sommes sur un critère qui avance beaucoup. Le barbecue a... On fait ces reproches au barbecue. Et le barbecue est associé à consommation de viande, hein, globalement. On va cuisiner, griller, des grillades, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a inventé la plancha. La plancha a cet avantage. Le goût ne va pas être tout à fait le même. On va parler d'effet maillard, de produits caramélisés. Donc le goût va être différent. On va naturellement cuire sur une plancha des produits beaucoup plus naturels, des légumes, des poissons. Et on va utiliser très très peu d'huile. Et qui plus est, il n'y aura aucun contact entre la nourriture et les flammes. Donc on évite ces fameux benzopyrènes qui sont tant reprochés.
Je voudrais qu'on fasse un point justement sur les barbecues et l'énergie, parce que c'est une des thématiques aussi qui est souvent mise en avant. Paul, vous nous donnez peut-être quelques techniques pour réaliser, si on a envie, un barbecue un peu plus écolo ?
Oui, absolument, pour aider les amateurs à choisir leur sac de charbon de bois. Par exemple, l'association The Forest Trust propose de les aider à trouver leur produit le plus écologiquement possible, puisqu'elle travaille depuis 3 ans auprès des enseignes de la grande distribution pour faire évoluer leurs critères. Autre plateforme, le site internet ConsoBlog conseille lui d'éviter les allumes-feux chimiques souvent conçus à base de pétrole, déjà parce qu'ils dégagent des gaz hydrocarbures qui se mélangent aux aliments, et aussi car c'est dangereux car ils peuvent être source de nombreux accidents domestiques. Du coup, privilégiez un allumage à l'ancienne avec du petit bois ou des pommes de pin bien sèches.
On reste ensemble et on parle barbecue aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Raphaël Duchemin.
Et pourquoi ne pas faire cuire ces aliments grâce aux rayons du soleil? C'est l'idée, vous allez voir, qu'a développée une start-up parisienne. Elle est avec nous dans un instant. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, aujourd'hui on prépare l'été et en été, forcément, on pense barbecue. Les Français innovent dans la cuisson d'extérieur. On découvre bien sûr toutes ces nouveautés avec vous. Et vous pouvez vous aussi poser toutes vos questions. Hashtag Europe 1 pour vos messages sur Twitter, 3921. Ça c'est le numéro du standard à composer dès maintenant.
Il y a des Français qui sont persuadés, Anissa, que la nature est notre meilleur atout pour innover.
C'est
Et c'est le pari que fait depuis des années déjà Gilles Gallo. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Solar Brother, une start-up parisienne qui a créé des produits solaires pour l'extérieur, ce qu'on appelle l'outdoor, des cuiseurs solaires. Mais alors, pas seulement, et on va y revenir. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de vous, parce que le solaire, c'est une véritable passion quand on regarde votre parcours. Vous aviez d'abord créé Sun IT en 2003, avec plusieurs branches, déjà les barbecues solaires, mais aussi des centrales solaires pour l'industrie. Ça veut dire que vous êtes vraiment persuadé que le soleil est un de nos meilleurs alliés.
Oui, le solaire, pour moi, c'est une réelle conviction. C'est pas, ça prend, et notre objectif est de développer cette énergie solaire concentrée. Tout le monde connaît le solaire photovoltaïque. Notre objectif, c'est de répandre l'énergie solaire concentrée pour en faire une énergie du mix énergétique de demain. Et pour cela, on met à disposition, pour recréer l'expérience pour tout le monde, des produits qui vont du briquet au four pour enfants, au barbecue pour les grands, au cuiseur pour les grands. Nous, ce qu'on souhaite, c'est recréer l'expérience solaire. Tout le monde l'a fait quand il était petit avec une loupe. Pour autant, vous demandez à tout le monde 20 ans après, est-ce que ça marche ? Personne n'y croit. Il y a un truc étrange
qui
se passe.
Et pourtant, on l'a tous fait. On a tous fait brûler des brindilles.
Et nous, on veut remettre cette énergie. On sait bien que ce n'est pas la seule qui sera nécessaire demain, mais ça fera partie du mix.
Je parlais de votre parcours parce que moi, je suis étonnée. Vous avez fait faillite avec votre entreprise en 2015. Vous êtes quand même reparti, encore dans le solaire. Cette fois avec une nouvelle gamme. Vous avez gardé les barbecues solaires, mais vous avez innové. Vous avez le Sun Good. Vous avez... le Sun Good, c'est un cuiseur solaire qui fait la taille d'un ordinateur.
Oui, c'est ça, un petit ordinateur portable qui se déplie. C'est une origami qui va se déplier en 30 secondes.
Il est avec nous.
Voilà, c'est celui-ci.
C'est celui-là.
Il pèse seulement 900 grammes. Sur
europe.fr.
Effectivement, aussi rapidement.
Dire une petite baignoire.
Donc, on a à l'intérieur comme des feuilles d'aluminium.
C'est
qui permet de refléter.
Et donc, il est couvert de miroirs. Tous ces miroirs vont renvoyer le rayon et le concentrer vers une marmite, un récipient qu'on pose au milieu.
Et donc on peut faire chauffer.
Et là, on chauffe. Sur cet ustensile, on est en cuisson douce. On va monter jusqu'à 120, 130 degrés. On ne va pas griller, on ne va pas chauffer 4 litres d'eau. On est la cuisson douce, mais on fait réchauffer tous ces plats. On cuisine des ratatouilles, même du poulet. Mais ça reste de la cuisson douce, il faut compter 1h30 pour les plats. Après, on a des ustensiles qui grillent.
Oui, alors vous avez un autre objet qui a été aussi primé, je crois, au concours Lépine. C'est le briquet solaire, vous l'avez avec vous, là.
Oui, oui.
Ce sont des miroirs, là aussi, qui viennent capter les rayons et fournir l'étincelle. Il marche la nuit ?
Il a l'option, on est pragmatique chez Solar Brother. Donc c'est pareil, c'est deux miroirs qui vont se déplier et concentrer les rayons du soleil sur un point focal et allumer tout ce que vous voulez, papier, bois, ensemble, en une seconde. Et il a la possibilité, pour être pragmatique et de fonctionner tout le temps, de glisser un briquet gaz. Le but étant, quand il fait pas beau, on fait comme avant. On utilise les énergies qu'on a à notre disposition. Quand il fait beau, commençons à utiliser l'énergie solaire. Et c'est cette illustration que fait ce briquet.
Et vous avez aussi un allume-feu solaire ?
On a un allume-feu aussi pour les aventuriers. On est chez les scouts pour allumer son barbecue au charbon. Son feu de camp, mais aussi s'amuser et pyrograver du bois à la plage. On peut avoir une distraction artistique solaire.
Aujourd'hui, vous êtes trois chez Solar Brother. Vous dites, nous, la volonté, c'est finalement que tout le monde puisse entrer au capital, qu'on puisse grossir ensemble, grandir ensemble.
Oui, on a une volonté de lever de fonds participatifs, mais aussi de plans, puisque tous nos produits, on donne tous les plans en open source sur notre site, téléchargeables gratuitement.
Gardez pas pour vous.
Ça reste depuis 15 ans le même fondement. Même l'échec dont vous parliez tout à l'heure, l'échec, il ne m'arrête pas parce que ma conviction reste la même. J'y suis pas arrivé pour autant, mais c'est pas pour ça que demain j'y arriverai pas. Ce que j'espère en ce moment, et ça a l'air de partir un peu mieux.
Que dit François de l'aventure Solar Brother?
Ben, ils souhaitent effectivement que le feu parte, effectivement, le feu solaire en tout cas. Ben, c'est passionnant parce que je pense que vous devez avoir bien d'autres idées pour la maison solaire de demain, par exemple, hein, globalement, et que vous irez peut-être plus loin que le simple four barbecue. Et j'ai envie de vous demander, c'est quoi alors vos prochains produits, vos prochaines idées ?
On a une douzaine de produits en développement. On a une levée de fonds en cours pour soutenir ces développements produits. Et ça va plus aller sur le temps. Et l'eau, on ouvre les univers, on a l'univers feu, on va dire, avec deux feux déjà, l'univers cuisson, qu'on va développer aussi avec des plus gros barbecues, même collectifs, et aussi l'univers temps, revisiter le solaire et le temps, et l'univers eau sur des bouilloires, des distillateurs, de l'eau chaude thermique. Après, on reviendra peut-être plus tard dans l'industrie, mais ça a été un parcours que j'ai vécu sur la première société, et que pour l'instant, on veut rester sur l'expérience. La petite expérience.
Paul, je crois que vous avez trouvé un barbecue made in France, écolo aussi.
Oui, ce sont les ateliers de Laudon, une entreprise normande qui ont lancé ce barbecue. Un barbecue qui cuit lui aussi à la verticale. La cuisson se fait sur les deux faces en même temps. Vos grillades sont saisies à l'extérieur et sont moelleuses à l'intérieur. Il est également plus écologique puisque plus de charbon de bois à acheter avec ce barbecue. La cuisson se fait à la flamme, donc il fonctionne avec des brindilles, du petit bois, des pommes de pin, pas d'allume-feu non plus, quelques feuilles de papier journal et des brindilles suffisent.
Et puis, il y a une solution connectée pour tous ceux qui n'ont pas forcément de jardin ou de balcon.
Oui, une plancha connectée et en libre service, ça s'appelle Cooksy. Et le principe est plutôt simple. Une fois que vous avez trouvé la plancha disponible près de l'endroit où vous êtes, tout ça via une carte interactive, vous activez le Bluetooth de votre téléphone, vous ouvrez l'application Cooksy et sélectionnez l'appareil sur lequel vous souhaitez cuisiner. Puis, une fois connecté, vous n'avez qu'à mettre vos aliments sur la plancha et elle gère absolument tout. Température, conseils de cuisson, déconnexion automatique. Tout est sous contrôle et mis à jour automatiquement. Vous n'avez qu'à siroter votre verre avant que la viande soit cuite.
On n'est plus l'esclave du barbecue, parce qu'il y en a
toujours
un. Exactement,
il y en a toujours un qui est obligé de rester devant. On reste ensemble, nous, justement, et on va continuer à parler barbecue.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Alimentez votre barbecue, mais avec du charbon éco-responsable. Oui, c'est possible, grâce à Carbonex. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et ça sent déjà bon l'été puisqu'on fait griller les brochettes aujourd'hui avec Raphaël Duchemin. On parle de barbecue, on parle de cuisson extérieure avec beaucoup de nouveautés françaises. Alors on a vu la cuisson solaire. Venez nous suivre sur Europe1.fr pour la vidéo. Vous allez découvrir la plancha, le solaire, vous allez tout découvrir et vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921. Ça c'est le standard.
Et alors c'est une histoire de famille qu'on va vous raconter maintenant. Bonjour Philippe Solaire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous deviez être avec nous dans le studio. Vous avez eu un problème de train. On vous remercie d'être quand même là sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Carbonex. Et alors, si je dis histoire de famille, c'est parce que je crois que tout démarre avec votre père en Espagne. Hein. Il était maraîcher et c'est lui qui se lance dans l'aventure. Racontez-moi, comment déjà vous arrivez en France ?
Écoutez, on a fait, nous, nos études en France. Notre papa est espagnol, notre maman française. Et du coup, notre maman a voulu une éducation française. Donc, on est venu ici. Et lors de la fin de nos études, notre papa, qui avait l'expérience dans le charbon de bois, mais en Espagne, nous a aidés à nous développer avec un charbon de bois en France.
Oui, il vous propose à vous et à vos frères, hein, je crois, de travailler dans une entreprise qui fait de la transformation de bois en carbone. C'est déjà Carbonex.
Exactement. Carbonex, donc, c'est une société qui est au cœur de la transition énergétique et aussi dans l'innovation, parce qu'effectivement, on produit un charbon de bois vert, éco-responsable. Donc, on transforme la biomasse en carbone. Donc, on est producteur d'énergie. Et pendant la transformation, on a un process unique qu'on a développé en interne, qui est une technologie de rupture. On fabrique de l'électricité qu'on injecte sur le réseau via les gaz de pyrolyse, un réseau chaleur et le carbone qu'on utilise là pour l'application charbon de bois pour barbecue.
Ça a l'air tout simple quand vous le dites comme ça. Pourtant, il a fallu 7 ans, je crois, de recherche et développement pour en arriver à un système satisfaisant avec effectivement l'idée de réduire la quantité de bois pour faire du charbon de bois.
Effectivement, beaucoup de recherche et de développement avec nos ingénieurs de qualité. En France, notre objectif, c'était vraiment de réindustrialiser la production de charbon de bois en France qui avait été délocalisée. Et finalement, on a via un incubateur de la Technopole de Troyes, via des aides de BPI, de la région Grand Est, du FEDER, pu mettre en pratique un process unique qui permet voilà, de produire du charbon vert, éco-responsable, oui, et l'électricité verte.
Vous avez pas vraiment eu le choix, parce que au début des années 2000, il fallait réduire les fumées hein, qui sortaient des systèmes de carbonisation. C'est comme ça que vous avez finalement commencé à travailler sur ce projet-là.
Exactement. Carbonex a dû s'adapter aux contraintes, et des contraintes, on a fait plutôt une valeur ajoutée, hein, des points positifs, et on a cherché ces gaz de pyrolyse qui étaient brûlés pour pas qu'ils soient émis à l'atmosphère. Ben finalement, c'était l'énergie qui était perdue. Et c'était l'énergie-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire.
L'énergie du bois.
L'énergie du bois, voilà, la transformation qui est la pyrolyse, l'énergie du bois était perdue. Il y avait donc, on a le gaz solide, liquide, et on s'est dit comment utiliser ces trois énergies qui proviennent du bois. Et voilà, c'est tout le pari qu'on a essayé de faire et qu'on a réussi.
Du coup, votre charbon de bois aujourd'hui est co-responsable. Il est beaucoup plus cher. Il est essentiellement distribué sur le marché français.
Il est essentiellement distribué sur le marché français. On est vraiment sur la partie vraiment circuit court, en production locale. Tout le bois provient d'une centaine de kilomètres au maximum de l'usine. Et là, effectivement, on a un charbon de bois qui est vraiment vert et qui permet de lutter, je dirais, un peu contre l'importation. Qui là, on a les problèmes, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure,
de déforestation, on en parlait, François.
Voilà, exactement. Donc, on a un charbon de bois qui donne une solution sur la partie déforestation, parce que en France, le bois est une ressource renouvelable, abondante, et sur lequel on a une gestion des forêts avec l'ONF, les exploitants forestiers.
Alors justement, François Sigel, qu'en pense-t-il ?
Non, bah, le bilan m'a l'air, le produit m'a l'air tout à fait satisfaisant, et justement face aux questions effectivement qui commencent à se poser aujourd'hui. Et alors, donc, vous dites que c'est un produit éco-responsable, donc il est vert, donc ça veut dire que les émanations globalement qui peuvent sortir de la cuisson de ce charbon de bois donc sont, on va dire, correctes, conformes. Et j'ajouterais, que dit la faculté, voilà, qui a dénoncé les méfaits du charbon de bois pour la santé par rapport à votre produit.
Alors, non seulement le charbon de bois, il est sain et pur, hein, c'est encore une fois, c'est du carbone, cette transformation devient du carbone et on l'appelle charbon de bois. Et pour répondre, j'irai un peu aux polémiques qu'il peut y avoir tous les ans dès que la saison des barbecues revient, c'est que finalement, c'est un problème de cuisson et c'est pas un problème de l'énergie que l'on apporte, que ce soit à la plancha, au gaz, au solaire, etc. Si on crame nos aliments, si on les fait brûler, de toute façon, ça va être nocif.
Oui, c'est la même chose dans une poêle à la maison avec un feu électrique.
Exactement. Exactement. Mais le charbon de bois a quand même le fait d'avoir un goût unique qui est dans nos gènes depuis des millions d'années. Et on ne serait pas là pour en parler si jamais il était si nocif que certains le prétendent. Parce que c'est comme ça, voilà, on reconnaît ce goût particulier et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en parler de manière sereine.
Philippe, vous avez fait une levée de fonds. Je crois que vous allez aussi, en septembre, hein, créer un nouveau site en Gironde.
Oui, effectivement, on a fait une levée de fonds sur le site à Gé-sur-Seine, on est à Troyes, hein, côté de l'Aube. Oui. Donc la Technopole, tout à l'heure je parlais, c'est la Technopole de l'Aube, à Troyes. On est, nous, à Gé-sur-Seine, et on a fait une levée de fonds importante d'un peu plus de 65 millions d'euros l'été dernier pour agrandir notre structure à Gé-sur-Seine et également faire une nouvelle structure sur la partie à Lacano, en Gironde. Voilà, on est vraiment sur la politique, non pas de la pastèque, mais de la myrtille, faire plein de petites unités à taille humaine et pouvoir avoir un emploi local pérenne avec des emplois indirects importants.
Avec l'envie aussi d'exporter ou pas du tout pour l'instant ? Parce qu'en 2004, je crois que vous aviez lancé une filiale au Brésil.
Alors oui, la filiale au Brésil, en fait, on était allé à un endroit au Brésil où il y avait la culture du bois, c'est la replantation, c'était l'eucalyptus, parce qu'on a toujours eu cette âme éco-responsable. Et alors le Brésil qui finalement donnait une image, alors, sauf l'Amazonie, mais il y a des endroits, ils étaient très en avance sur la culture du bois. Donc on a été là-bas et finalement on s'est aperçu quand même que c'était pas évident d'être trop loin de nos marchés, parce qu'on visait quand même le marché local brésilien, et que la culture environnementale, économique, n'est pas la même que celle de la chance qu'on a d'être en France et en Europe, où on bénéficie d'un système social, économique favorable.
On reste ensemble et on continue à parler barbecue sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
39-21 et Twitter, on vous attend évidemment. Vos réactions, c'est la France qui bouge.
Ça sent l'été sur Europe 1. La France bouge et la France innove aussi en matière de cuisson extérieure. Vous l'avez compris, on parle de plancha, de barbecue, avec beaucoup d'innovations, des innovations françaises que nous découvrons grâce à vous, Raphaël Duchemin, grâce à vos invités. Et les questions, c'est maintenant vos questions là,
oui,
sur ces nouveautés. 39-21, le standard d'Europe 1. Et puis hashtag Europe 1, ça c'est pour vos messages sur Twitter.
Et oui, parce que nous sommes avec Régis Fluzin, qui est président de la maison Le Marquier. 1971, maison française. Gilles Gallo, qui est le cofondateur de Solar Brothers. Et au téléphone avec nous, Philippe Solaire, qui est cofondateur de Carbonex, le charbon de bois éco-responsable. C'est formidable, Philippe, parce que derrière vous, on entend les oiseaux qui chantent. Dans le studio d'Europe 1, notre coach, François Sigel, et Paul Lassen, qui m'accompagne aujourd'hui. On a dans le studio aussi, si vous nous suivez sur Europe1.fr, une plancha un peu particulière. J'aimerais que vous nous expliquiez, Régis Fluzin, ce qu'elle a de spécial. Elle est ici avec nous. Qu'est-ce qu'elle a d'innovant, cette plancha?
Voilà. Alors, en reprenant Maison Le Marquier, je devais garder la qualité et développer des produits en termes de look et de fonctionnalité. J'ai des amis chez Peugeot Lab Design, donc dessinons des voitures. Je dessine des barbecues depuis 2000, en fait, donc j'avais une expérience dessus. Les voitures sont assez proches du barbecue. Et puis, je voulais quelqu'un vraiment français. Vous avez compris mon engagement produit en France. Oui. Donc, avec Peugeot, on s'est mis à dessiner cette plancha-là. Nous sommes partis sur 4 critères au départ. Donc,
parce qu'il y a des points communs entre l'automobile et la plancha.
Entre le barbecue et l'automobile, c'est quand même assez proche. Déjà, c'est parce qu'au départ, c'est assez masculin. C'est des formes, des arrondis, des mélanges de matériaux. Et avec Peugeot, le cahier des charges était de respecter 4 critères. Déjà, notre qualité de fabrication made in France. Oui. 2, notre ancrage régional, Pays Basque. Très très fort, on est très ancré Pays Basque. 3, de trouver un design plutôt pop art, en fait, être dans les arrondis, ce qui est cuisine pour nous. Et puis, on a travaillé dessus et on a travaillé sur une... Et puis le mélange des matériaux qui font très très haut de gamme, très très classe. Voilà.
Donc c'est émaillé sur le dessus.
Alors, la qualité numéro 1 de la plancha, c'est de la fonte émaillée. Donc c'est une plaque avec un émaillage parfait, c'est la meilleure plaque qui existe en France. La fonte garde la chaleur, l'émail permet de cuisiner avec très très peu d'huile, un nettoyage très facile. Et on a redessiné aussi les bords pour faire des bords très très larges pour pouvoir remuer les aliments très facilement sans que ça parte à côté.
Ça fait surtout plancha professionnelle, ça fait ce qu'on voit dans les grands restaurants avec les cuissons de grands chefs.
Sauf que ça c'est pour les particuliers.
Voilà, exactement, c'est pour les particuliers. C'est une plancha semi-professionnelle on va dire, mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est un peu la Rolls-Royce de la plancha en France. On a travaillé des mélanges de matériaux, on a des bimatières sur celle-là, c'est des mélanges acier-inox si vous voyez, qui en termes de design sont très très beaux, des arrondis et on a aussi dessiné des boutons sur la forme de la cuisine, on s'est inspiré de grandes marques de cuisinières très très haut de gamme et on a un produit très très abouti.
Et ça fonctionne comment? À l'électrique, au gaz, ça marche comment?
Alors on a trois modèles, on a deux modèles au gaz, donc c'est ou un mélange acier-inox ou un mélange tout inox. Tout inox c'est des inox marins pour aller au bord de la mer. Donc
tout a été vraiment pensé dans les moindres détails.
Voilà. Et on a une électrique sur laquelle on a une vraie innovation avec des radiants, des bisones, qui va monter à plus de 300 degrés en 5 minutes, en moins de 5 minutes. Et c'est vraiment un outil assez génial à manipuler.
Et ça coûte combien?
Alors, les trois planchas. Donc, la première va être à 549 €, donc prix de vente consommateur, TTC. Et le mélange tout inox, donc inox grade marin, donc ou électrique ou au gaz, va coûter 599 €.
Ça, c'est pour les gens qui vivent au bord de la mer, particulièrement?
Non, les gens qui aiment des beaux produits.
D'accord.
Des gens bord de la mer, parce que l'inox va être garanti
mais
à vie.
Mais je rappelle, c'est garanti à vie. Donc, c'est un produit qui peut effectivement rester longtemps au sein de la famille. On a aussi, alors rien à voir, mais ça fonctionne aussi et puis ça va intéresser les familles. Un kit pour les enfants, Gilles Gallo. Qu'est-ce que c'est? Racontez-moi. On refait l'expérience comme quand on était petit.
Notre but est de toujours ramener l'expérience à des petits objets pour redonner confiance en cette énergie qui est méconnue.
Le Sun Lab.
Et lui, c'est un four solaire pour enfants. C'est une dinette solaire qui va monter entre 60 et 90 degrés en 5-10 minutes. Et donc l'enfant va pouvoir à la fois déjà découvrir l'énergie solaire parce qu'il apprend à construire un petit peu.
J'ai des moules à l'intérieur,
il y a un thermomètre pour visualiser la montée en température. Il y a des recettes, des moules et il va faire fondre du chocolat, faire fondre du fromage sur une tartine ou réchauffer tous les plats de la veille entre 10 et 20 minutes selon la recette qu'il utilise. Mais il va faire du vrai et ça va vers la pédagogie réelle.
Il va s'initier à la cuisson et au pouvoir du
soleil. Et cuisiner en réel à la fin. Il a une vraie expérience et une dégustation gourmande. Le solaire devient gourmand, quoi.
François ?
Et le solaire devient ludique, donc c'est une formation. Et vous dites, plus les enfants vont être formés jeunes au solaire, et plus ils vont se dégager de l'industrie carbone, par exemple, et des produits carbonés. Mais c'est tout à fait louable, chers messieurs.
Moi, je voudrais qu'on revienne à vous, Philippe Solaire, parce que vous êtes toujours avec nous. Carbonex, on a parlé effectivement du développement. Vous êtes en levée de fonds. Pour faire quoi exactement la levée de fonds ?
Alors, la levée de fonds nous sert essentiellement à pouvoir mettre en place toute notre innovation, innovation de rupture, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On permet, avec la biomasse, produire plusieurs énergies. Et le carbone, je reviens, on va parler à l'instant du carbone, mais nous, c'est un carbone renouvelable. Et voilà, et c'est un charbon de bois éco-responsable. Et sur cette partie-là, on arrive à utiliser quasiment, on a une efficacité énergétique qui est extraordinaire pour la production de ce carbone renouvelable.
Quand vous dites carbone renouvelable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète aujourd'hui un paquet chez vous de Carbonex, une fois que je l'ai utilisé, je peux récupérer et venir vous le redonner et vous allez en refaire?
Alors non, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, renouvelable, parce que les arbres que l'on prend, qu'on va faire, c'est sur la coupe qu'il peut y avoir, qui est plutôt de l'élagage, permet aux forêts un meilleur renouvellement, une meilleure croissance. Et ensuite, avec les cendres qui sont faites suite au barbecue, on peut les épandre au sol et pouvoir profiter pour nos plantes, par exemple. C'est possible. Et la partie éco-responsable, c'est que, rapidement, c'est qu'il faut aujourd'hui un peu moins de 4 kilos pour faire 1 kilo de charbon de bois. Et avec tout ce qui est le charbon de bois qui vient de l'apport, il faut plus de 8 kilos pour faire 1 kilo. Donc, vous voyez, rien que cette différence permet de bien comprendre la partie éco-responsabilité.
Et je crois qu'on a Sébastien qui nous envoie un message au 3921. Il dit « J'ai un barbecue plancha qui fonctionne au granulé. C'est haut de gamme. C'est un très beau produit. Je suis cuisinier. » Granulé, ça vous parle, hein, manifestement. Sébastien qui est en Lozère.
C'est une marque que je suis en train de lancer. C'est des amis américains. On travaille ensemble depuis 4 ans. Et c'est une marque qui s'appelle Trigger. C'est le numéro 1 américain des barbecues à pelets. Donc, c'est des pelets de bois, durs, qui donnent un goût de fumage au produit. Et vous allez dans des zones de cuisson de 70 à 110, vous fumez. 180, vous cuisinez une pizza ou une tarte au feu de bois. Et 240, 280 degrés, vous allez cuire votre côte de bœuf avec un vrai goût de feu de bois.
Paul, je voudrais qu'on termine avec, pour tous les aficionados, un événement à ne pas louper.
Oui, vous en parliez dans le sommaire. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, allez au Sainte-Marie-de-la-Mer, puisque c'est la 7e édition du championnat de France de barbecue. Samedi et dimanche, plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour encourager les candidats dans un stadium équipé de barbecue à charbon. Vous pourrez découvrir les dernières tendances barbecue, recettes et astuces. Une compétition qui se déroule sur 2 jours, 48 heures durant lesquelles plus de 100 équipes se disputeront les 9 prix mis en jeu. Et chaque recette ou création sera évaluée par un jury d'experts triés sur le volet. On n'en fait pas partie, malheureusement.
Ouais, c'est bien dommage. C'est bien
j'espère dommage. Au moins qu'on vous a ouvert l'appétit. Merci messieurs d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Merci. Il est 13h38.
Merci. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle vous aide à dormir la nuit. Adova et l'entreprise qui va bien. Merci. Vous croyez ne pas la connaître et pourtant, vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, il est temps de nous dévoiler maintenant qui est l'entreprise qui va bien aujourd'hui.
Eh bien, cette entreprise, figurez-vous qu'elle fabrique les matelas sur lesquels vous dormez la nuit, Alissa.
Ah, très bien.
Bonjour Jacques Chaffnit.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes le PDG du groupe Adova. Alors Adova, ça ne dit peut-être rien à ceux qui nous écoutent, mais c'est Treka qui existe depuis 1935, c'est Simons depuis 1929, c'est aussi Dunlopillo, Diva, Steiner, un groupe qui compte, je crois, aujourd'hui 1300 personnes. Et alors, avant Adova, si on remonte, il y avait Coval. Mais le groupe n'allait pas très fort. Il a été racheté en 2016 par un fonds d'investissement français. Et vous, vous arrivez juste après, en 2017.
Oui, donc j'ai été appelé par le fonds Perceva, qui a racheté la société, donc qui a cette envie donc, de reprendre des sociétés pour leur redonner une nouvelle vie. Et donc, j'ai été chargé, effectivement, de développer le plan industriel, commercial, pour relever des marques qui avaient été, on va dire, abîmées par Coval.
Ça qui vous plaît dans le projet? C'est ça
moi,
qui vous
me
motive
plaît, non, il y a plein de choses qui
le
me
made
plaisent.
In France.
Alors, le Made in France, bien évidemment. Je suis un défenseur du Made in France depuis de nombreuses années.
Leur histoire et leur savoir-faire aussi, je suppose.
Leur histoire, le savoir-faire, et puis le savoir-faire donc, artisanal. Et puis, redonner aux marques, en fait, leurs origines. Souvent, les abandonne.
Revenir à l'ADN. L'ADN, il est différent en fonction des marques. On a 3 marques, je parlais de Treka, de Simons et de Dunlopillo. Chacune a sa spécificité.
Alors, sa spécificité, et de fait, l'ADN est différent parce qu'en fait, la création à l'origine, elle est totalement différente.
Parce que dans des endroits différents du territoire, il y a 7 usines aujourd'hui.
Alors, il y a 7 usines en France, oui. Et effectivement, c'est important parce que moi, j'ai souhaité effectivement avec ce projet garder cet ancrage régional. Je suis également pour cette décentralisation hein, qui est importante en France et créer ce contrat moral entre une région autour d'un projet et une entreprise.
C'est-à-dire Treka, c'est le haut de gamme. Simons pour tout ce qui est innovation et puis Dunlopilo pour tout ce qui est mousse. Hein. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé une partie de ces mousses, notamment en 29 quand on invente le sommier latex.
Alors il y a effectivement, on part de Treka. Treka a été créé effectivement en 1935. Par la famille Moritz, qui est une famille industrielle depuis le XVIe siècle, sur d'autres choses, ils faisaient des teintureries. Mais Treka vient de tréfilerie. Donc l'origine de Treka, c'est parce que c'était des matelas ressorts. Mais associé à Treka, il y a tout le savoir-faire à la française, du luxe. Et on a c'est la troisième génération d'ouvriers dans nos usines. Donc il y a cette passation entre père et fils, ou père et fille, ou mère et fille. Et c'est important parce qu'en fait, il y a une fierté d'appartenir à toutes les marques, et notamment à la marque Treka. On a un savoir-faire, on a développé des partenariats, par exemple, c'est important, avec des gens comme Christian Lacroix. Mm-hmm. Pierre Fraisse et Christian Lacroix, lorsque je l'ai vu il y a quelques mois, lorsqu'on a lancé les produits avec lui, il m'a dit... c'est simple, j'ai rien à redire. Le premier prototype que j'ai reçu était juste parfait. J'aurais aimé avoir ce savoir-faire manuel quand j'étais dans la couture.
Vous avez passé peu de temps à la tête de cette entreprise pour l'instant. Je disais tout à l'heure 2017.
Oui, juin 2017, donc ça fait deux ans.
Et votre chiffre d'affaires a déjà grandi, grossi, prospéré. Vous dites on peut le multiplier par 4, notamment à l'export. C'est votre ambition?
Alors, lorsqu'on croit au Made in France, déjà, ça veut dire qu'il faut, pour être fort dans son pays, moi je suis convaincu qu'il faut déjà avoir une vision internationale. On ne peut pas vivre uniquement sur son marché. Et donc, effectivement, on a fait une croissance forte sur l'ensemble de nos trois marques, mais également, on a cette volonté d'aller plus loin à l'export. Donc, on a créé des filiales pour l'ensemble de nos produits en Europe, mais on regarde l'Asie. Parce qu'en Asie, par exemple, on nous achète des produits Treka, made in France. Le côté made in France donne envie.
C'est une plus-value.
C'est une plus-value, une vraie plus-value. Alors, il y a la qualité. J'entendais parler tout à l'heure dans votre émission précédente là, de savoir-faire à la française. Il est reconnu, ce savoir-faire à la française.
Que dit notre coach, de la qualité. François Sigel?
Il dit pas grand-chose, il se pose des questions parce qu'il est ravi de savoir qu'effectivement une société française peut conserver une valeur ajoutée sur un produit quand même copiable, sur un produit, je suis ravi de constater qu'on n'achète pas aujourd'hui tous ces matelas ou ces lits sur Internet. Ça veut dire qu'il faut les essayer, qu'il faut encore des showrooms, qu'il faut être en contact avec le produit. C'est ça votre succès?
Non, c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, des marques fortes. Et les marques fortes, donc on a parlé de Treka, de Simons, voilà, c'est avoir une vraie différence. On a parlé donc de Dunlopilo. Dunlopilo s'attaque au marché de la mousse. La mousse, vous retrouvez sur le marché français ou européen ou mondial, tous les mêmes produits. Ils achètent à des gens qui fabriquent des mousses. Et puis, vous savez, c'est comme un sandwich. Vous mettez le beurre avant le fromage ou le jambon et c'est le même produit au final. Nous, l'ADN de Dunlopilo, c'est créateur de matière. Donc, on crée nos matières. Donc, on a une matière unique. En plus, on a un processus de production qui est différent parce qu'on moule. On fait un moulage, ce qui est beaucoup plus coûteux en termes de coût que de la mousse extensée que vous venez découper à l'épaisseur du matelas. Donc c'est plutôt ça. Sinon, pour revenir sur ce que j'appellerais donc la différence de vente, on fait les deux, on fera les deux, parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui achète par Internet, mais on le fera d'une manière différente et on va se lancer sur ce marché-là.
Et en tout cas, ce groupe est là, et bien là, 1300 personnes, des marques très ancrées en France avec les 7 usines. c'est Adova, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous
en
parler.
Merci beaucoup.
Il est 13h49.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un verre qui clignote et qui invite les seniors à boire par temps de canicule, c'est la solution aujourd'hui et c'est Auxivia. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et chaque jour avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution. Aujourd'hui, une solution qui tombe à pic en cette période de canicule.
Effectivement, avec vous, Paul Lassen, on a trouvé une initiative qui permet à nos seniors de ne pas se déshydrater.
Oui, ça s'appelle Auxivia et cette entreprise, elle développe des objets connectés de santé adaptés aux personnes âgées, notamment un verre connecté qui aide au suivi de l'hydratation des seniors pour les personnels de santé. Ce verre, il assure donc un suivi automatisé de l'hydratation chez les seniors, l'objectif étant de préserver le plus longtemps possible leur autonomie en abordant la problématique de la déshydratation qui, il ne faut pas l'oublier, peut avoir des conséquences significatives sur leur état de santé, notamment pendant les périodes de grosse chaleur.
Bonjour Antoine Dupont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Auxivia. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de ce verre connecté. Il est là avec nous sur Europe1.fr.
Effectivement. Alors j'ai rencontré mon associé il y a de ça maintenant 5 ans. C'était en 2014. Et à l'époque, on s'intéressait à l'innovation dans le secteur de la santé et plus particulièrement auprès des personnes les plus fragiles. Il y a eu beaucoup d'innovations dans le secteur du sanitaire, mais peu dans le médico-social. On s'est donc intéressé à ce sujet, on a rencontré beaucoup de professionnels et le sujet de l'hydratation est un des sujets qui est ressorti comme étant une problématique du quotidien pour les professionnels de santé, mais également pour les personnes âgées. Et on a commencé comme ça et on a créé une société en 2015 sur ce sujet. Et notre objectif est aussi d'aller sur d'autres problématiques récurrentes que rencontrent ces personnes-là.
Et ce verre, vous pouvez nous expliquer un peu comment il fonctionne ?
Bien sûr, donc c'est un verre qui s'utilise comme un verre normal. Il passe en machine à laver, il est résistant aux chutes, au choc. Il a une ergonomie spécifique pour être facilement utilisable par les personnes dépendantes. Et il va enregistrer toutes les prises hydriques de manière fiable. Alors quand je dis fiable, par exemple, il va faire de la distinction de but non but. Un verre qui est renversé ne sera pas comptabilisé comme une prise hydrique. On ne quantifie que les prises hydriques effectives.
Et la base est différente. Hein. Vous dites c'est le même verre, mais on voit qu'il se passe quelque chose au fond du verre.
Alors tout est caché. Effectivement, on a un fond qui est opaque et c'est là-dedans qu'est placée toute la technologie. Et le verre, quand il enregistre toutes les informations, il va les remonter aux professionnels de santé dans les structures. Alors dans les structures, je vous raconte très rapidement comment ça fonctionne. Quand on souhaite suivre l'hydratation d'une personne fragile, personne qui a des grippes, une diarrhée, un retour d'hospitalisation, on va devoir prendre une fiche de suivi papier et suivre cette personne pendant toute la journée et enregistrer toutes ses prises hydriques. Je ne vous cache pas que c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps et in fine, ce n'est pas forcément fait. Ce n'est pas de la faute du personnel,
oui, c'est
juste
toujours
que c'est contraignant. Et surtout, ça prend beaucoup de temps. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les professionnels ont peu de temps sur le terrain. Donc notre objectif, c'est de leur apporter une solution qui est fiable, qui est simple et qui leur apporte du réconfort au quotidien et surtout qui accompagne la personne âgée tous les jours.
Le coach, François ?
Mais le verre se met alerte, renvoie une information sur un central une fois que la quantité d'eau diminue.
On a deux types d'alertes. On a l'alerte pour l'utilisateur, donc pour la personne qui utilise le verre. On a un système lumineux dans sa base qui se déclenche pour stimuler la personne à s'hydrater. C'est comme un rappel à l'hydratation. Et on a un deuxième système d'alerte qui est directement sur le logiciel métier du soignant. Et là-dessus, on va voir toutes les prises hydriques enregistrées pendant un temps long.
Alors on voit bien que vous vous adressez pour l'instant aux professionnels, aux maisons de retraite et aux personnes hospitalisées. Est-ce qu'un jour ce verre, on peut éventuellement l'acheter pour les particuliers et le donner à nos parents, grands-parents ?
On a beaucoup de sollicitations par les particuliers et les proches, les aidants en France. Ouais. Il y a beaucoup d'aidants sur
ça
le territoire français.
Ça peut être rassurant pour une famille d'offrir ce verre à ses parents.
Mais même au-delà de la réassurance, ça permet aussi d'éviter des phénomènes de déshydratation qui coûtent très, 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 très cher. Alors on y pense, on n'y est pas encore. On travaille uniquement aujourd'hui pour des structures professionnelles à domicile et en EHPAD.
Et ça coûte combien justement de ce verre-là ? Il coûte combien aux hôpitaux, aux EHPAD ?
Alors en EHPAD, on va être entre 30 et 60 centimes par jour par personne suivie, ce qui est très 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 faible par rapport au coût d'une perfusion d'hydratation, 80 euros au jour, ou le coût d'une hospitalisation, 6000 euros par déshydratation. Mais plus généralement, l'innovation dans ce secteur, elle commence à émerger, ça fait 5 ans. Donc, il y a des associations, des clusters comme Silver Valley qui travaillent beaucoup pour dynamiser le secteur et apporter des innovations pour les professionnels et on fait partie de cette veine-là.
Merci d'être venu nous présenter cette solution qui s'appelle Oxivia, donc ce verre qui permet de suivre l'hydratation des personnes fragiles. Merci à François qui était notre coach aujourd'hui, ainsi qu'à Paul. Demain, c'était Elisabeth Assayag que vous retrouverez. Et vous parlerez football au féminin, bien sûr.
Bah oui, demain, quart de finale entre la France et les États-Unis pour la Coupe du Monde, bien sûr. Donc on va parler foot. Made in France demain. Merci Raphaël Duchemin.